Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mounde.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Cinq jours après l'attaque de l'hôtel Radisson, le sujet demeure toujours à la une de l'actualité, ce qui s'explique par plusieurs raisons. D'un, certains aspects de la tragédie restent encore à élucider. De deux, on a hâte de savoir l'évolution des enquêtes à cours. De trois, on voudrait également savoir quelles peuvent être les conséquences de cet événement sur la situation sécuritaire et économique du pays. Alors, après cette attaque terroriste, comment se présente la situation dans le pays? Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui doit changer? À ces questions et bien d'autres vont répondre nos invités au nom de trois. Le professeur André Bourgeau, directeur de recherche au CNRS à Paris. Aujourd'hui, il n'est pas au téléphone, il est bien là dans ce studio. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Nous avons toujours dans ce studio Adam Cham qui est éditorialiste. Monsieur Cham, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons comme troisième invité Baba Dakono, il est analyste. Monsieur Dakono, bonsoir.
Bonsoir.
À la présentation, Seydou Fomba.
Studio Tamani.
Auditrice, auditeur, bienvenue. Cela fait cinq jours que les terroristes ont frappé au Mali en attaquant l'hôtel Radisson. Des victimes, il y en a eu beaucoup. Leur identification était en cours. On devrait pouvoir en principe en savoir un peu plus maintenant, non, Adam Cham?
Oui, c'est maintenant qu'il y a le bilan officiel, c'est 21 morts, enfin 19 clients de l'hôtel ou employés de l'hôtel et puis les deux assaillants. Il paraît que les identifications sont en cours en ce qui concerne les deux assaillants. Mais pour le reste, c'est connu. On connaît le nombre d'étrangers, on connaît le nombre de Maliens, on sait qui était client de l'hôtel, qui faisait partie du personnel de l'hôtel. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on n'a pas perdu de temps.
Baba Dakono.
Oui, je rejoins Cham sur cette question. On n'a pas perdu de temps. Quelques heures après ce qui s'est passé au Radisson, des images ont été diffusées, notamment par la télévision nationale. Les services de sécurité, les services d'enquête maliens ont été appuyés par d'autres services étrangers pour procéder à l'identification des assaillants. Voilà, aujourd'hui, les chiffres sont connus. On sait à peu près, en termes d'identification, bien sûr, qui étaient les victimes parmi les clients, le personnel de l'hôtel et aussi qui étaient les assaillants, même si sur la question du nombre d'assaillants, les témoignages sont parfois contradictoires. Voilà, sur le nombre des assaillants, on sait ceux qui sont restés, mais était-ce tout ce qui était à l'hôtel comme assaillants?
Professeur Bourgeau, le nombre de victimes est assez élevé et parmi elles, assez de personnes expatriées.
Oui, je voudrais faire observer dès le début que l'évolution de l'enquête s'est faite quand même assez rapidement. Avec les chiffres que vient de donner Adam, c'est extrêmement précis. Et ça va à l'encontre de ce qui s'est écrit dans la presse malienne où on parlait de 27 morts, entre 21 et 27, entre le nombre d'assaillants qui quelquefois, on disait 2, 3, 4, enfin avec des imprécisions assez importantes. Donc maintenant, on peut considérer que les chiffres qu'a avancé Adam sont les chiffres officiels.
Oui, je crois que le bilan est stabilisé. Je crois que le bilan est stabilisé. Les Nations Unies ont prêté aux Nations Unies, une radio internationale, plus une agence de presse internationale prêtée aux Nations Unies d'avoir dit un peu tard dans la journée du vendredi qu'il y avait 27 morts. Mais les Nations Unies, le lendemain, ont rejoint le bilan officiel présenté par le Mali qui était de 21 morts.
On va à présent nous intéresser aux circonstances de l'attaque. Les circonstances de l'attaque sont-elles suffisamment claires à présent, Adam Cham?
Alors non, ça, je ne sais pas. Il y a des éléments que nous n'avons pas. Dakono l'a dit, nous ne savons pas quel était le nombre des assaillants, nous ne savons pas le déroulé exact de l'opération, ni de l'attaque de l'hôtel, ni de sa libération. Nous ne savons pas les heures, et ça, c'est extrêmement important pour reconstituer la journée.
Adam, disons Baba Dakono.
Oui, il y a encore beaucoup trop de flou et de surtout au-delà de la question de flou, d'informations contradictoires par rapport à ce qui s'est passé. Contradiction d'abord en premier des témoins qui doivent renseigner notamment les enquêteurs et tous ceux qui s'intéressent à la question pour faire l'analyse de la situation et même au-delà de la question de ce qui s'est passé, du déroulé des objectifs. Vous savez, depuis le vendredi, toutes les théories sont en train d'être fuses de partout sur ce qui s'est passé et les objectifs, même s'il y a eu deux revendications autour de cette attaque, il y a quelques heures, quelqu'un parlait de la possibilité de prendre pour cible un homme d'affaires nigérian qui serait dans l'hôtel et qui serait le principal objectif de cette attaque. Donc, comme vous le voyez, des analyses ou des hypothèses les plus saugrenues, au plus soutenues, sont en train d'être diffusées sur ce qui s'est passé à l'hôtel Radisson. Mais ce qui est encore le plus, ce qui rend difficile aujourd'hui l'analyse et la tâche des enquêteurs, c'est surtout les informations contradictoires qui viennent souvent de témoins par rapport à ce qui s'est passé au Radisson.
Procès Bourgeot, au sujet des circonstances, il y a toujours beaucoup de rumeurs.
Oui, beaucoup de rumeurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de zones d'ombre. À partir du moment où le soleil ne va pas éclairer ces zones d'ombre, ce sera effectivement difficile d'analyser les circonstances qui ont présidé à cette attaque. Notamment aussi au niveau des revendications de certains éléments de la nébuleuse djihadiste, puisqu'il y en aurait deux, quelquefois trois. C'est quand même quelque chose d'important. Est-ce qu'on a les moyens de vérifier les revendications émises par certains groupes de salafistes djihadistes? En tout cas, moi, j'ai pas ces moyens-là, donc je suis obligé de me réfugier sur la presse, puisque c'est quand même elle qui diffuse l'information. Est-ce que des responsables connus de Al-Morabitoun ou d'Ansar al-Din ont été contactés? N'importe qui peut faire ce type de déclaration.
Alors, le procès Bourgeot le disait tout à l'heure, il y a eu une double revendication de l'attaque, la revendication d'Al-Morabitoun et celle du mouvement de libération du Massina. En attendant la fin du processus d'authentification de ces revendications, alors, est-ce qu'une piste peut-elle être déjà envisageable, Adam Thiam?
Non, je ne sais pas si ça pourra jamais être authentifié. On peut simplement, selon notre degré d'exposition aux signatures, aux différentes signatures djihadistes, décider que c'est Al-Morabitoun ou le Front de Libération du Massina. En ce qui me concerne, je crois plus recevable la thèse que ce soit Al-Morabitoun qui ait revendiqué ces attentats-là, pour la simple raison qu'en 2015 déjà, ils avaient déjà signé, je crois, quatre forfaits, et en 2013, 14 des forfaits qui avaient été commis ont été revendiqués par Al-Morabitoun via le même canal Al-Kabar. Donc, pour moi, je n'hésiterai pas, je penserai effectivement que ce soit que ce coup-là a été fait par Al-Morabitoun. Mais est-ce que Al-Morabitoun peut l'avoir fait en conjonction avec ce qu'on appelle le Front de Libération du Massina, qui me paraît être encore un mouvement très peu connu, peut-être dont l'existence est même mise en doute par mais vraiment de bons connaisseurs de la région de la région de Mopti, et qui n'est connu que parce que un jour on a vu sur un site électronique un tract signé Front de Libération du Massina. Mais Iyad Agali lui-même, vous vous souvenez, lors de l'attaque de Nara, a référé à ce mouvement-là comme Katiba Massina, et on sait les liens qu'il avait avec certains des dirigeants de ce mouvement-là, et donc c'est plus facile pour moi de penser effectivement que même ce fameux Front de Libération du Massina n'est qu'une délocalisation dans la région de Mopti ou un peu au sud de Ansar al-Din.
Alors, à défaut de pouvoir donc établir la véracité de ces revendications, à quoi devrait-on s'en tenir, Baba Dakounou?
Encore une fois, la situation est très complexe et c'est pas la première fois qu'on retrouve une double ou triple, voire triple revendication par rapport à une attaque. Le même groupe, dans le temps, quand c'était signateur par le sang, en mai 2013, les attaques qu'il y a eu au Niger, il y a eu une double revendication et c'était le Moujao et en même temps les signateurs par le sang qui réclamaient la paternité de ce geste avant, quelques semaines plus tard, de se retrouver pour fusionner et former ce mouvement qu'ils ont appelé Al-Mourawid. Donc ce n'est pas une première, mais ce qui est frappant quand même, c'est quand on fait la relation entre le mode opératoire à Sévaré, où c'était un hôtel qui était visé, un hôtel qui est fréquenté par des Occidentaux notamment, eux, ce qui s'est passé également à Radisson, l'ère à laquelle semble-t-il, ça a commencé. Mais le plus, ce qui fait que la thèse de Al-Mubiratoun est un peu compliquée, c'est que il semble que aux premières heures de l'attaque, des négociations avaient été entamées entre les forces de sécurité maliennes et ce groupe juste après qu'ils aient revendiqué, mais quelques temps plus tard, ça a été vite abandonné pour la solution d'exfiltration, la solution militaire qui a donné les résultats qu'on connaît tous.
Alors, et quand l'authentification pose problème, que peut-on faire, le procureur Bourgeot?
Écoutez, je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire. Je voudrais revenir sur l'hypothèse qui me paraît fondée sur le fait que ce serait El Mourawitoun qui est passé à l'action. Il ne faut pas négliger le fait que El Mourawitoun relève d'une fusion entre deux groupes salafistes djihadistes. Et que cette fusion-là, en tout cas au niveau de la propagande diffusée par El Mourawitoun, ce n'est pas sans rappeler certains propos qui ont été tenus par Boko Haram, qui s'est transformé en organisation de l'État islamique. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important à mentionner, d'autant que à l'intérieur de Mourawitoun, tout le monde n'est pas sur les positions d'Al-Qaïda. Il y a une certaine tendance qui irait dans le sens d'une allégeance à l'organisation de l'État islamique. Maintenant, sur le front de libération du Massina, il faut quand même souligner que cette appellation est une appellation d'ordre politique, puisque c'est front de libération du Massina. Si c'est un front de libération, ça veut dire que on considère que le Massina est occupé par une puissance étrangère. Alors que je vois pas la possibilité de revendications de type salafiste djihadiste avec une telle appellation. En revanche, ce qui n'est pas du tout impossible, c'est que le vocabulaire qui consiste à caractériser la katiba du Massina, ça c'est un vocabulaire djihadiste. Et effectivement, ça pourrait relever, c'est inconditionnel, c'est difficile d'avoir des preuves concrètes, ça pourrait relever d'une extension de Ansar al-Din al-Salafiya qui est dirigée par Iyad Agrali. Et si tel en était le cas, ça voudrait dire aussi, encore c'est une hypothèse, le Massina, il y a quand même beaucoup de peuls dans le Massina. Ça veut dire que ce serait aussi une extension à caractère ethnique, ce qui n'est pas quelque chose à éliminer compte tenu du fait qu'Ansar al-Din est surtout composé essentiellement de Tamashèques, de Maures aussi et bien sûr de Songhaïs, mais d'une manière majoritaire c'est quand même des Tamashèques. Donc cette appellation Katiba du Massina me paraît quelque chose à retenir en tout cas.
Allez-y, monsieur Tchali.
Sur le mode opératoire, Dakono a juste raison, effectivement, a pointé le mode opératoire et a fait le parallèle avec ce qui s'est passé à Sévaré. Mais peut-être il faut faire le parallèle avec ce qui s'est passé surtout en Tunisie, hein, parce que il n'y avait pas d'intention de prendre des otages. L'intention c'était de faire le carnage maximal, hein, mais vraiment une opération de djihadisme primaire. Et donc de ce point de vue là, tout le monde peut le faire. La Katiba Massina peut le faire, Ansar al-Din peut le faire, Al-Mourawitoun peut le faire, surtout que Al-Mourawitoun, cette fois-ci, a quand même dit qu'elle a fait cette opération avec ACMI. Et ACMI, c'est Abu Hammam, au nord du Mali, et on sait que Abu Hammam a effectivement des djihadistes noirs dans sa katiba.
La réaction d'André Bourgeot?
Oui, je veux dire, les contextes entre l'opération, l'attentat de Sévaré et celui de Radisson au Bamako, diffère sensiblement. Ils interviennent dans un hôtel où il y avait une réunion de la francophonie. Ils interviennent dans un contexte où le président de la République était à N'Djamena pour une réunion organisée par le G5 Sahel. Donc là, on voit bien aussi qu'il y a un impact politique beaucoup plus grand que dans le cas de Sévaré. Je crois me rappeler aussi que quelques jours avant l'attentat, il y a eu au Radisson une table ronde organisée autour de l'islam. Donc vous voyez, si vous conjuguez ces trois aspects-là, ça a des connotations politiques beaucoup plus importantes que celles de Sévaré.
Il est donc 18h30. Dans quelques secondes, nous allons observer une première petite pause.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
L'attaque de l'hôtel Radisson, l'évolution des enquêtes, les conséquences de cette tragédie, c'est le sujet du grand dialogue de ce mercredi. Pour en parler, nous avons trois personnes dans ce studio. André Bourgeot, qui est directeur de recherche au CNRS en France, Adam Cham, éditorialiste, et Baba Dakuno, qui est analyste. À présent, nous allons nous intéresser aux enquêtes qui sont en cours. Aujourd'hui, on parle d'un fusil NAK-47 qu'on est en train d'étudier minutieusement. On parle quand même de la recherche des complices. Alors, comment évoluent les enquêtes, Adam Tiam, selon vous?
Bon, j'en sais rien. Je lis la presse, on dit que les Kalachnikov vont parler. Il paraît qu'ils ont pris les douilles, etc. Mais il faut dire que c'est extrêmement important que nous ne soyons pas dans les conjectures. L'enquête, c'est le procureur qui doit en parler, c'est le procureur qui doit nous en informer. Et moi, je m'en tiendrai à cela.
Mais vous sentez que ça évolue?
En voyant le journal télévisé, et qui a quand même, en voyant leur thème, qui a quand même, une fois n'est pas coutume, assez bien couvert cet événement, on a l'impression effectivement que même cette enquête avance, même s'ils ne nous disent pas où ils en sont. En lisant la presse, on a l'impression que l'enquête avance, et je crois que ce qu'il faut faire, c'est effectivement laisser le procureur nous édifier.
Baba Dakuno,
qui a d'ailleurs fait une déclaration, voilà, et qui informe sur l'évolution, du mieux autant que faire se peut, de l'évolution de cette enquête. Donc, ce qui est important aussi, c'est ce qui se passe depuis le vendredi, c'est l'importance de la rumeur qui est en train de prendre le dessus sur ce qui se passe véritablement, eux, sur les attaques, sur le dénouement, eux, sur l'enquête. Donc il est important aussi que les gens se ressaisissent pour ne pas brouiller au maximum les informations, la poursuite de l'enquête. Je pense que, comme Adam l'a dit, c'est ce devoir d'information sur l'évolution de l'enquête incombe au procureur, et je pense qu'il est en train de le faire.
Alors, l'étude minutieuse des AK-47, les deux fusils, selon vous, André Bourgeot, est-ce que ça pourra révéler quelque chose par rapport à ça?
J'ai pas de compétences particulières sur les AK-47. Ce que je sais à propos des AK-47, pardon, excusez-moi, c'est que c'est une arme qui est bon pour tous les climats, y compris pour le climat saharien, puisque, alors qu'avec d'autres armes, un petit grain de sable, on arrive tout, avec les AK-47, pas du tout. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Mais, et pourtant, bon, en revanche, ce que je voudrais dire, c'est que, On ne peut pas dissocier ce qui s'est passé à l'hôtel Radisson de ce qui se passe actuellement au Mali sur l'ensemble du territoire malien depuis un an. Et on constate, en tout cas moi c'est une observation que je fais, qu'il y a prolifération des actes de cette nature perpétrés par des salafistes djihadistes. Bon, je peux faire référence bien sûr à l'attaque du restaurant Les Terrasses à Bamako, déjà à Bamako au mois de mars, sauf erreur de ma part. Donc, mois de mars, ça veut dire il y a 5 ou 6 mois. Les attentats qu'il y a eu à la frontière ivoirienne, à la frontière mauritanienne, Sévaré qu'on a cité tout à l'heure. Donc, il y a quand même une extension assez importante et un rythme qui se rapproche de plus en plus. Donc ça pose le problème de la présence des forces militaires étrangères et plus particulièrement de la force militaire Barkhane qui est là aussi pour essayer d'éradiquer les forces djihadistes. Or depuis l'opération Serval transformée en Barkhane, on voit pas les effets immédiats de cette volonté d'éradiquer les groupes armés que moi j'appelle narco-djihadistes. Faut pas minimiser aussi le fait qu'ils sont que certains d'entre eux sont dans dans le trafic de drogue. Ça pose aussi le présence de la présence de la des militaires de la MINUSMA, je crois savoir qu'il y en a à peu près 10 000. Donc si on conjugue le nombre de militaires français au nombre de militaires de l'ONU, y compris les militaires chinois, parce que je crois aussi qu'il doit y avoir 200 ou 300 militaires chinois au sein de la MINUSMA, plus les militaires maliens, on se dit, mais attendez, avec autant de militaires, comment on ne peut pas essayer d'éviter la prolifération et l'extension de ces pratiques salafistes djihadistes?
Je dois signaler d'ailleurs que 600 militaires allemands sont annoncés.
En plus. Donc ça me pose...
Il y a des Hollandais, il y a des Néerlandais aussi. Il y a des Néerlandais. Mais André, bon, j'ai essayé de voir un peu sur Wikipédia la liste des attaques au Mali. Donc, du 26 janvier 2013 au 11 novembre 2013, il y a eu 17 attaques. Pour toute l'année 2014, je crois qu'il y a eu 7 attaques. Et jusqu'à présent, en 2015, il y a eu 5 attaques. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que la cible a sensiblement bougé. En 2013, on attaquait simplement les forces françaises, les forces armées maliennes, les troupes onusiennes. Et maintenant, c'est vraiment des cibles molles, soft target, comme on dit. On va dans un hôtel, ce n'est pas un objectif militaire. L'objectif est politique, on fait le maximum de carnage. C'est ce qu'on a fait à la terrasse, c'est ce qu'on a fait au Biblos, c'est ce qu'on a fait à Radisson. Mais si on regarde dans le fond, effectivement, le nombre des attaques a régressé par rapport à 2013.
Oui, merci.
Allez-y.
Et si je peux rajouter la chose, c'est que l'élément quantitatif n'explique pas tout, mais en revanche, l'élément qualitatif que vous soulignez, il a quand même une expression beaucoup plus importante que les 17 attaques de 2012-2013. C'est ça qui me paraît très important. Donc ça veut dire que les salafistes djihadistes ont des capacités d'adaptation et de développer de nouvelles stratégies par rapport justement à ce qui s'est passé, à ce qui a eu lieu dans le passé. J'en veux pour preuve que la notion qui me paraît pas tellement pertinente de guerre asymétrique ne relève pas des réalités du comportement des salafistes djihadistes, y compris au début. Ensuite, et quand ils ont été partiellement défaits militairement, ils ont procédé à des harcèlements. Et ce harcèlement que vous décrivez et qui a, combien vous avez annoncé d'attaques, maintenant c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a une véritable stratégie qui s'inscrit dans un contexte mondial où il y a de plus en plus d'attaques de cette nature. Bon, on peut pas non plus dissocier ça de ce qui s'est passé dans le Liban du Sud, de l'avion russe qui explose en plein vol, bien sûr l'attaque de l'organisation de l'État islamique à Paris et Seine-Saint-Denis, récemment encore. Donc il y a quand même une prolifération, un rapprochement d'attaques de type djihadiste qui s'exprime de plus en plus.
Adam Thiam le disait, la cible qui change. Baba Dakono, vous êtes analyste, comment vous expliquez cela?
Bon, mais avant, je voudrais quand même réagir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que la dernière partie de donne la réponse en fait à la question en fait que on ne peut pas donner. C'est pas la présence militaire. On aurait eu Barkhane en plus, on aurait eu Africom, on aurait eu toutes les armées du monde. Ça ne peut pas être la réponse contre la prolifération de ces groupes terroristes et leur capacité de nuisance, parce qu'ils ont une très forte capacité d'adaptation au contexte. Nous avons vu à un moment où c'était tel ou tel qui était quand même identifié comme potentiel djihadiste, mais maintenant avec cette capacité de recruter au sein des communautés et ce qui s'est passé au Mali, que ces mouvements aient proliféré et qu'ils aient pu quand même faire cette radicalisation d'importants jeunes, donc ça rend plus difficile cette lutte contre le terrorisme, et je suis pas sûr que les réponses qu'on est en train de donner aujourd'hui sont les meilleures réponses, notamment renforcer cette présence militaire sans prendre en compte tout ce qui est à l'origine, tout ce qui a contribué. Tout de suite, il l'a rappelé,
c'est que le front de libération. Il faut un travail en amont, c'est cela?
Il faut un travail en amont, il faut plus que ce qu'on est en train de vendre aujourd'hui. Il a parlé de front de libération du Massina, c'est donc à l'origine on a une revendication politique qui est là, même si on peut ne pas prêter toute l'objectivité à cette revendication, mais ce qui est sûr c'est que la prolifération des mouvements djihadistes est construite sur des questions qui sont économiques, des questions qui sont sociales et des questions qui sont ancrées dans nos pratiques, eux qui sont soutenus par les défaillances qui sont exploitées par les défaillances dans nos modes de gouvernance. Je ne parle pas seulement du Mali, je parle de l'Europe, je parle de toutes les puissances. Mais ce qui est important aussi qu'il faut rappeler, c'est que dans la lutte contre le terrorisme, on voit plus les effets, par exemple, ce que je disais la dernière fois, quand un attentat est déjoué, tout de suite, on ne voit pas l'effet parce qu'on est parvenu à déjouer. Donc, il faut également garder à l'esprit que dans cette lutte contre le terrorisme, on est plus ému quand on a une attaque ou un attentat qui arrive à terme. Quand on parvient à l'avorter, on ne sent pas tout de suite les effets de l'efficacité de cette lutte, même si je suis d'accord que la réponse qui est donnée aujourd'hui n'est pas la meilleure réponse face à cette menace.
Alors, le pays est en état d'urgence. Est-ce qu'on peut déjà savoir si cette mesure est à même de produire des effets, Adam Tcham?
J'en sais rien. Le président de la République a le droit de déclarer les états d'urgence. L'état d'urgence, dans tous les pays, c'est comme ça que ça se fait. J'espère que nous n'avons pas procédé que par mimétisme, mais je suis d'accord. C'est-à-dire, quand tu décrètes un état d'urgence, il y a des choses à faire. Est-ce que nous pouvons réaliser toutes les prescriptions d'un état d'urgence? Ça, je n'en sais rien.
Baba Dakono?
Je pense que dans notre contexte malien, état d'urgence doit rimer avec disposition à prendre en termes de communication avec les populations. Comme Adam, faut pas que ça soit juste un phénomène de mode. On est dans une communauté où les gens ont plus ou moins un degré de tolérance acceptable, parce que qui parle d'état d'urgence parle de limiter, de restrictions dans les libertés individuelles. Donc cette mesure doit également s'accompagner de mesures, parce que voilà, nous n'avons pas encore 20 ans, 50 ans de pratique démocratique. Les gens doivent s'habituer et doivent connaître la portée des décisions qui sont prises, pour quel effet.
André Bourgeot, après cette attaque de l'hôtel Radisson, l'état d'urgence ne s'impose-t-il pas?
Je pense qu'en termes de décision politique, c'était un minimum que le président de la République devait prendre, sans pour autant faire de mimétisme par rapport à la situation en France. Mais effectivement, le problème de l'état d'urgence, c'est quel est le contenu concret de l'application de cet état d'urgence, et est-ce que l'État malien a les moyens techniques, militaires, policiers, pour faire appliquer cet état d'urgence. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit uniquement avec des mesures sécuritaires que l'état d'urgence peut être appliqué. Enfin, j'aurais terminé là-dessus, c'est que dans cette situation, il me paraît nécessaire de quitter la relation émotionnelle. On est dans des situations d'émotion qui font en sorte que c'est pas très sain que d'agir au niveau de l'émotion. En revanche, on devrait pouvoir réfléchir, analyser les causes qui ont conduit à cette situation. Et une des causes quand même qui ont conduit à cette situation, que vous le vouliez ou non, c'est quand même des conséquences directes de l'intervention militaire franco-britannique et celle de l'OTAN en Libye. On voit dans quel état se trouve actuellement la Libye. On sait que l'extrême sud libyen est aussi le nid, le repère des djihadistes qui vont se refaire une santé quand ils ont été un petit peu malades au Mali. Donc s'il n'y a pas de volonté politique pour s'atteler aux causes politiques, sociales et économiques, on pourra toujours prendre des décisions de cette nature-là. Je ne pense pas que ça contribue à l'efficacité de la résolution du problème.
Alors, à présent, nous allons nous intéresser au dispositif sécuritaire. Adam Tcham, qu'est-ce que vous pensez du dispositif sécuritaire au Mali après le 20 novembre?
Je pense qu'on a un grand déficit. Déjà, c'est au niveau de la culture de la sécurité. Pour quelqu'un qui a vécu, par exemple, en Éthiopie, imaginez-vous, malgré la proximité de la Somalie, il n'y a jamais eu d'attaque terroriste à Addis Abeba. Mais c'est simplement parce qu'il y a un maillage. Il y a un maillage tel que c'est extrêmement difficile de planifier quoi que ce soit. Il y a une fouille systématique des voitures, qu'elles appartiennent à des diplomates ou non. Et il y a aussi, je pense, de fortes capacités au niveau des forces de sécurité et de défense. Il y a des ajustements à faire. Moi, je ne pense pas qu'on est en train de le faire. Par exemple, maintenant que Radisson est attaqué, il est mieux gardé que le Grand Hôtel. il y a un problème. Il y a plus de troupes aujourd'hui autour du Radisson attaqué qu'au Grand Hôtel qui n'est pas attaqué. Et je pense que nous sommes en train d'apprendre, mais ce n'est pas, on n'est pas au point. La culture sécuritaire fait défaut. Mais même quand on aura eu cette culture-là, je pense qu'il faut simplement passer au concept de sécurité collective où moi, Adam Thiam, lui, André Bourgeois, effectivement, sont des acteurs de la sécurité plutôt que de simples bénéficiaires. C'est-à-dire, dans nos quartiers, dans nos familles, nous devons tous pouvoir effectivement travailler en cheville avec les services compétents en matière de sécurité.
Baba Dakono.
Il y a quelques temps, je discutais avec quelqu'un qui me demande, là où tu es, est-ce que tu penses que c'est sûr? Il n'y a aucun dispositif sécuritaire visible dans cet endroit. Je dis, moi, j'ai plus confiance à une zone où tu ne vois pas un dispositif sécuritaire visible qu'à une zone où tu as une forte présence, un dispositif assez visible. Donc, je rejoins Adam sur le fait qu'il y a quand même, il faut travailler pour développer la culture sécuritaire. Il y a aussi la prise de conscience et surtout la responsabilité. En français, je crois qu'on peut parler de terme responsabilisation, en fait, de tous les acteurs qui prennent conscience des responsabilités qui sont les leurs, les agents de sécurité, mais aussi les usagers, et que les gens arrêtent de croire que parce que j'ai une telle position sociale, je dois pas subir les mesures sécuritaires parce que plus on est par exemple proche une voiture par exemple qui a une accréditation est censée partir dans tous les coins et recoins de toute la République. Donc c'est une voiture qui est la première cible de quelqu'un qui a des intentions mauvaises. Donc cette voiture doit être deux fois plus surveillée que moi ma voiture qui n'a pas le droit de dépasser le parking.
Professeur Bourgeois, en matière de sécurité, le Mali a donc beaucoup à apprendre face à la menace terroriste.
Oui, mais je crois que tous les pays de la sous-région ont beaucoup à apprendre sur les menaces terroristes. Alors, que les mesures sécuritaires répondent à l'événement, je pense que c'est tout à fait normal. Mais c'est pas comme ça non plus qu'on va résoudre le problème. C'est-à-dire, c'est pas des mesures sécuritaires au niveau local ou national. Tant qu'il n'y aura pas, et ça va un petit peu dans ce sens avec les décisions qui sont prises sur la transfrontalier, sur les aspects transfrontaliers du salafisme djihadisme. Mais ça, c'est du multilatéral. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les effets positifs du multilatéral. Alors, la question que je me pose et que je pose aux auditeurs, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas revenir au fait de conforter, de consolider les relations bilatérales, parce que ça concerne aussi fondamentalement les relations bilatérales, dans une approche multilatérale. Parce que le multilatéralisme relève du droit international. C'est pas du tout le problème des États actuellement et de l'application de la souveraineté des États, alors que la souveraineté des États, elle passe par la consolidation des relations bilatérales. Donc je pense que dans des menaces qui s'expriment pratiquement partout dans l'espace saharo-sahélien, il faut combiner d'une manière équilibrée, organique, le développement des relations bilatérales. Je crois que tous ces États ont des accords de coopération avec les pays voisins et dans une appréhension du multilatéralisme. Sinon, je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir.
Alors, des patrouilles nocturnes sont quand même menées conjointement par les forces de sécurité maliennes et la police onusienne. C'est quand même quelque chose de nouveau, non, Adam Thiam?
Oui, et qui aurait dû se faire depuis plus longtemps. Et on ne jette pas la pierre au Mali. Et je trouve honnêtement scandaleux qu'on déverse autant d'argent dans certains secteurs tels que la montée en puissance de l'armée et qu'on néglige, par exemple, certaines dispositions fondamentales telles que le renseignement, parce qu'il faut investir là-dessus. C'est ce qui, en amont, permet d'éviter ce qui s'est passé au Radisson. Et puis, il y a les patrouilles. On savait depuis le 11 janvier 2013, quand Serval est intervenu, qu'il allait y avoir une attaque majeure à Bamako dans les 3 années qui suivaient l'attaque. Tous les sécuritaires, tous les experts ont dit ça. Et donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut effectivement commencer les patrouilles mixtes. Mais l'État malien était un État en crise. Il ne pouvait pas. Et donc, ceux qui ont fait la réunion de Bruxelles, ceux qui sont intervenus pour Serval, ceux qui ont amené la MINUSMA ici, avaient la responsabilité quand même de veiller à la sécurité de tout le monde, y compris leurs ressortissants. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui à Radisson? Il n'y a pas que des Maliens qui sont morts, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers.
Baba Dakono, je rappelle que vous êtes analyste.
Merci du rappel. Donc je vais partir à partir sur ce que Boujour disait tout à l'heure sur de renforcer la coopération bilatérale. Oui, c'est important, mais ça permet également d'attirer l'attention sur le fait que on parle de plus en plus d'approche régionale sur cette question, mais il est difficile aujourd'hui de trouver une organisation qui regroupe par exemple tous les pays du champ du Sahel pour faire face à cette menace. On est en train de parler par exemple du G5 qui doit trouver des réponses à peu près régionales, mais il est important de rappeler qu'il y a un acteur très important qui n'est pas dans ce groupe, l'Algérie. Toutes les organisations que vous prenez...
On produit simplement à 5, le concept du pays des pays du champ.
Du champ, oui.
Et qui avait un état-major, CEMOC, mais c'était le seul état-major au monde sans troupes.
Sans troupes.
Pendant
et qui n'a pas pu faire face à la crise malienne quand elle a été déclenchée. Donc oui, donc on a quand même beaucoup de leçons attirer en fait des différentes approches, notamment sur cette approche multilatérale, et on persiste à reproduire les mêmes schémas qui, jusque-là, ont donné peu de faits, sinon pas grand-chose.
André Bourgeot.
Oui, je ne peux reprendre que ce que je viens de dire, c'est que effectivement, et puis ça pose quand même sur le fond les conditions d'exercice des souverainetés nationales, alors que le multilatéralisme, encore une fois, relève de décisions internationales. Donc quel est le rôle des États, et plus particulièrement de l'État malien qui est quand même dans une situation d'affaiblissement énorme. Cet affaiblissement, il est renforcé par ce qui s'est passé au Radisson. Donc la déstabilisation des États concerne pratiquement tous les États-nations de l'espace saharo-sahélien. On verra prochainement aussi comment la situation peut évoluer au Niger. Donc c'est ça le problème. Et c'est pas simplement qu'une... Parce qu'on se rend bien compte, l'histoire elle est là, elle parle, hein, c'est le multilatéralisme, il est lié aussi au fait que ça renvoie à la mondialisation néolibérale, pour ne pas dire capitaliste. Donc ça répond à un certain système, à une certaine logique de mondialisation. Dans cette mondialisation, quelle est la part de manœuvre, la possibilité de manœuvre des États concernés?
L'attaque de l'hôtel Radisson aura sans doute plusieurs conséquences. Il y aura des conséquences économiques. Faut-il avoir des craintes à ce niveau, Adam Thiam?
Avant même de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur un point évoqué par André Bourgeot, c'est le Niger. Mais vous avez tellement raison, effectivement, de souligner ce problème. Je pense que le Niger, pour le Mali, est une question de politique intérieure. Parce que c'est pas un volcan éteint, le Niger, et toute rupture aujourd'hui au Niger, effectivement, signifierait une avancée occidentale de Boko Haram. La seule jonction que nous craignons, vraiment, c'est celle de Boko Haram avec le mouvement, le Front Populaire du Massina, s'il existe, à cause, effectivement, des similarités culturelles. Donc ça, c'est un mouvement, mais vraiment, c'est un point extrêmement important. Les conséquences économiques... J'espère que nous nous en sortirons. Nous étions en train de reprendre. Hein. Vous voyez, il y avait beaucoup de gens. Les hôtels commençaient à se remplir. Les investisseurs commençaient à arriver. Je ne sais pas ce qui va se passer depuis le truc du Radisson. Parce que normalement, l'hôtel est un havre. Et même quand il y a des problèmes de sécurité, en général, les chancelleries disent aux gens « restez à l'hôtel ». Mais maintenant, si l'hôtel est attaqué, il y a un problème. Et il ne faut surtout pas accepter qu'on nous dise « oui, ça se passe aux États-Unis, ça s'est passé en France, etc. » Non, parce que Paris reprendra beaucoup plus vite que Bamako, New York reprendra beaucoup plus vite que Bamako. Nous sommes des économies sous perfusion depuis longtemps. Nous sommes un pays en crise. Je pense qu'une action de ce niveau-là sur le Radisson a une importance, a des répercussions économiques extrêmement importantes, mais il faut se battre, c'est tout.
Alors, côté investisseurs, le pays ne doit-il pas s'inquiéter, Baba Dakono?
S'inquiéter, oui, mais rester dans l'inquiétude, ce qu'on ne conseillerait pas. Donc, il va sans dire qu'il y aura des conséquences économiques, parce que on commençait à sortir la tête de l'eau, ça va remettre encore beaucoup de choses en question, beaucoup de services qui devraient reprendre seront remis en question, mais il faut aussi rappeler que certainement les protocoles sécuritaires au niveau de ces investisseurs, au niveau des organisations qui fréquentaient ces hôtels seront revus, mais ça va dépendre surtout de la capacité à, comme l'expression de la Banque mondiale que les gens n'aiment pas, la résilience, en fait, la capacité de résilience des différents acteurs. Sinon, Cham le disait tout à l'heure, de la mi-janvier 2013 à maintenant, rien n'a changé. C'est la situation, la menace sécuritaire, elle était présente sur Bamako et sur toute l'étendue du territoire depuis l'intervention franco-africaine. Donc, c'est cette situation de sécurité précaire avec la menace présente, elle était là depuis 2 ans. Et elle va encore continuer parce que ce n'est pas une lutte qu'on va gagner tout à l'heure dans 1 mois ou 2. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 10 ans, mais ça va dépendre de la capacité des acteurs à s'adapter à la situation et à mener les autres acteurs en confiance pour faire cette relance économique dont le pays a besoin.
Professeur Bourgeot.
Oui, incontestablement, ça a des conséquences sur l'économie malienne, mais d'une manière aussi plus générale, sur l'ensemble de l'économie, que j'allais dire, de type saharienne. Mais face à ça, on va être dans la durée. Donc la question que je me pose est la suivante, c'est est-ce que le prochain sommet Afrique-France, c'est important la sémantique, hein, avant c'était France-Afrique, maintenant c'est Afrique-France, ça change tout, qui va avoir lieu en décembre 2016, est-ce que ça va pouvoir contribuer à une relance de l'économie malienne et de manière plus générale de l'économie africaine? Je crois que c'est une question qui me paraît importante. Enfin, je voudrais souligner les conséquences de l'attentat à l'hôtel Radisson sur les conditions d'application et sur les conditions du déroulement des accords de paix. Les accords de paix, là-dedans aussi, ils en prennent un coup. Donc c'était déjà, ces accords de paix n'ont pas provoqué un enthousiasme populaire particulièrement prégnant. Et là, est-ce que ça risque pas d'entraver le développement de l'application de ces accords de paix? Parce que le développement de ces accords de paix renvoie aussi à des possibilités de relance économique sur l'ensemble du territoire national.
Alors, c'est une question, il nous reste très peu de temps, nous allons quand même essayer d'évoquer un point. Adam Cham, il y a quand même les fêtes de fin d'année qui approchent, il va falloir certainement veiller et être très vigilant.
Oui. D'ailleurs, en général, depuis 2013, depuis l'opération Serval, je réalise que les discours de vœux du président appellent à la vigilance, hein, et puis appellent la jeunesse qui sort à être très prudente sur les routes. Les routes, le 31 décembre. Ont jusqu'à présent tué plus que les terroristes. Donc il faut pas sur ce plan-là créer plus de psychose que ce n'est nécessaire. Je pense simplement, et c'est dommage, il suffisait qu'il y ait 5 hommes armés, 10 hommes armés, pour garder le Radisson, qui est quand même un symbole de notre sortie de crise, pour qu'il n'y ait pas ça et que nous n'ayons pas effectivement à repartir presque de zéro.
Baba Dakuna.
Donc à partir de ce que Cham vient de dire, donc à prendre en compte dans le processus de réforme du secteur de la sécurité qui est en cours dans le pays, notamment sur toute cette réglementation qu'on doit avoir sur les agences de sécurité privées, parce que quand on parle sécurité aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la sécurité publique assurée par les forces de défense nationale, mais on oublie qu'il y a tout autour des agences de sécurité privées qui n'ont pas, comme le Mali, comme dans beaucoup de pays africains, qui ne sont pas réglementé comme il devrait, et que ça peut donner naissance à d'autres types de situations.
Au professeur André Bourgeot, le mot de la fin.
Le mot de la fin, j'en sais rien. Vous posez la question des fêtes de fin d'année. J'ai jamais passé de fêtes de fin d'année au Mali, donc je ne sais pas quel est le degré de consommation par rapport à la période qui précède les fêtes. Mais si on prend pour exemple ce qui se passe actuellement en France...
Il y a beaucoup de rassemblements.
Oui, non, mais ce qui se passe en France, c'est qu'effectivement, les commerçants commencent à s'inquiéter parce que leur chiffre d'affaires baisse sensiblement, et c'est conséquemment aux attentats de Paris et Seine-Saint-Denis. Donc on peut penser qu'ici, avec un déclin du pouvoir d'achat aussi, le pouvoir d'achat du Malien, il a quand même aussi décliné d'une manière assez sensible, et que par-delà ce problème-là, il y aura peut-être beaucoup moins de consommation, donc ça repose le problème du développement de l'économie à travers le commerce.
De ce point de vue, là justement, le FMI a fait plus que Belmokhtar, hein, concernant la baisse du pouvoir d'achat.
Expliquez-nous.
Non, mais de tout.
Expliquez-nous.
Non, mais je veux dire, oui, c'est-à-dire qu'on fait partie des pays les plus pauvres. Chaque année, le rapport sur la pauvreté sort. Plus la croissance économique est là, plus les familles s'appauvrissent. Je crois que c'est 65% des Maliens qui ne gagnent pas $1 par jour. Si on dit que le seuil de pauvreté c'était $2 par jour, alors c'est seulement 8% de Maliens qui peuvent lever la tête de l'eau. Ça, ce n'est pas le terrorisme religieux qui a fait ça, c'est plutôt l'intégrisme libéral, je crois.
Des propos pas tout à fait optimistes sur lesquels ce débat va donc s'achever. Je rappelle que le sujet du jour, c'était les conséquences de l'attaque de l'hôtel Radisson. Comme invité, nous avions le professeur André Bourgeot, qui est le directeur de recherche au CNRS en France. Pour une fois, il n'était pas au téléphone, il était en direct dans ce studio. Baba Dakono, qui est analyste, était également là. Adam Cham, éditorialiste, était effectivement, qui a également pris part à ce débat. À la réalisation, Ousmane Djadje Touré, Seydoumbo, à la mise en onde. Alors, monsieur Dambélé, qui est donc à la régie vidéo, c'est tout pour ce débat qui vous a été présenté par Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. Au revoir.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.